BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom sur BFM Business. Aujourd'hui, on va parler de création publicitaire avec Lionel Benbassa, le directeur général de l'agence FF Paris. On s'intéressera à la nouvelle campagne de Schweppes avec Florian Simonet, le directeur de la marque, et avec Daniel Beau, le PDG de Qualiquanti et du Brand Content Institute. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Paul Rechter, le directeur de la communication et des affaires publiques de l'Ordre des Avocats de Paris. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Bonjour Frédéric Roy.
Bonjour Aurélie.
Rédacteur en chef de CB News, comme chaque semaine à mes côtés. Marie Valogne, bonjour.
Bonjour Aurélie.
Alors Marie, dans l'actu cette semaine, bien évidemment, les résultats de Facebook qui ne semblent pas trop subir finalement les conséquences du scandale autour des données personnelles.
Eh bien non, des résultats en forte hausse qui ont eu le mérite de rassurer les investisseurs cette semaine, avec un bénéfice net en hausse de 63% à 5 milliards de dollars pour le premier trimestre. Les recettes publicitaires du groupe n'ont visiblement pas fait les frais du scandale Cambridge Analytica. Elles ont bondi de 50% sur un an, pas plus que le nombre d'utilisateurs qui est toujours en progression. Et a priori, pas de ralentissement de tendance à prévoir pour les prochains mois. Malgré les défis importants auxquels nous sommes confrontés, notre communauté et nos activités démarrent fort en 2018. C'est ce qu'a déclaré Mark Zuckerberg.
Et puis toujours dans le secteur de la tech, le retour de Jean-Baptiste Trudel aux commandes de Criteo.
Après avoir quitté ses fonctions en 2015, le cofondateur du spécialiste du ciblage publicitaire est de retour. Il reprend les commandes pour tenter de mettre fin à la crise que connaît le groupe. Criteo traverse une passe difficile depuis qu'Apple a restreint la présence de cookies sur son navigateur Safari.
Magnum a dévoilé une campagne d'affichage qui s'intitule Pleasure Icon.
Et c'est une campagne très artistique que nous propose Magnum dans les rues de Madrid. La marque a fait appel à l'artiste français Thomas D'Antoni, basé à Londres et à Barcelone et connu pour son univers rétro. Il a réalisé pour Magnum des dessins minimalistes avec à chaque fois le contour de personnages dans les tons bleu foncé, rouge, blanc et puis c'est tout. Et ce qui est original là-dessus, c'est que dans chaque dessin, un Magnum, un bâtonnet de glace, un Magnum a été dissimulé. Ils se font par exemple dans le reflet des lunettes de soleil d'une jeune femme. On l'aperçoit aussi un autre Magnum qui s'est glissé dans un t-shirt imprimé. On en distingue un autre dans l'ombre d'un micro d'un chanteur qui ressemble là encore étrangement à un Magnum. La campagne sera visible à Londres et à Paris et elle est orchestrée par l'agence Lola Mulenlo.
C'est une très très jolie campagne, enfin moi elle me plaît beaucoup. Et puis la dernière opération comme de Thalys, ça se passe à Bruxelles.
500 Bruxellois ont été photographiés et seulement 2 minutes plus tard, ils se sont vus transformés en statues. Grâce à une technologie holographique, leurs photos ont été projetées sur un piédestal et les silhouettes des Bruxellois ont été transformées et se sont affichées sur 5 mètres de hauteur, comme des statues. Ils sont donc devenus en quelque sorte des humains, des monuments humains. Une façon pour Thalys de valoriser Bruxelles et ses habitants. La campagne est orchestrée par l'agence Rosa Park.
Il faut aller de plus en plus vers des choses comme ça, un peu événementielles, Frédéric.
Oui, parce que en fait, plus on digitalise, plus on a des relations virtuelles, plus à un moment donné, il faut donner du vrai, il faut se servir de la techno pour faire des opérations comme ça. Et la preuve, c'est qu'on en parle, donc ça marche. Ouais.
Merci Marie Valogne, on vous retrouve la semaine prochaine.
BFM Business, HebdoCom, l'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Lionel Benbassa. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'agence créative FF Paris, agence créée par Fred et Farid. Alors l'année 2018 démarre très fort pour vous. On m'a soufflé dans l'oreille que vous aviez décroché 3 gros budgets. Vous pouvez nous en dire plus ?
Exactement. Donc ça commence très très bien, effectivement. 3 gros budgets. Donc je peux pas vous parler de tous les budgets parce qu'on sait bien aussi dans notre industrie, il y a encore des choses qui doivent rester confidentielles jusqu'au moment de la sortie. Mais 3 gros budgets, dont un gros budget sur un acteur important de la tech américain. Donc on est évidemment très content et un gros budget aussi dans le monde du fitness, donc une marque qui s'appelle Basic Fit, qui est pas encore forcément très connue, mais qui est le leader européen en gros avec déjà 1,5 million d'abonnés.
D'accord.
Avec plus de 500 clubs, 3500 employés et ils ont lancé du coup une compétition qu'on a remportée. Vraiment l'idée c'était de les accompagner dans le développement business de cette marque. Ils nous ont interrogés sur un territoire donné et finalement la proposition qu'on a faite les a tellement séduits qu'aujourd'hui on va les accompagner sur l'ensemble du marché européen. Donc on est très content de cette victoire.
Sur ce qu'on a pu voir là de vos dernières créations, vous avez faut le dire, plusieurs agences, notamment à New York, à Los Angeles ou encore à Shanghai. Et vous avez signé la dernière campagne de Sea Shepherd contre les plastiques en mer. C'est une création pour une ONG, pour autant elle est très artistique, vous pouvez nous en parler ?
Alors, on a décidé au sein du groupe, effectivement, d'accompagner une cause qui nous est chère, qui nous importe, et c'est la cause des océans sur laquelle on s'est porté, et on a effectivement travaillé avec Sea Shepherd. L'idée de cette campagne, évidemment, c'est de dénoncer et de faire prendre conscience du risque de la pollution pour les animaux. Et l'attention qu'on a apportée, elle est évidemment sur l'idée, mais aussi sur le craft. C'est quelque chose qui est extrêmement important dans notre métier. C'est quelque chose qui est extrêmement important au sein de l'agence, au sein du groupe. Chaque idée doit aussi être portée par la forme. Et donc, effectivement, pour éveiller les consciences, la forme et l'attention qu'on apporte à ce craft est très importante. Et c'est pour ça qu'on a eu cette direction artistique extrêmement arty, et qui fait un produit qui est très intéressant visuellement, donc à la fois dans le fond et dans la forme.
Frédéric.
Alors FF c'est un groupe qui est assez original quand même, parce qu'il est implanté à Shanghai, il est implanté maintenant aussi aux États-Unis, à New York et à Los Angeles. Et donc vous avez un regard qui est, je pense, assez original sur la création publicitaire, justement. Le fait d'être comme ça un petit peu partout dans le monde, c'est ça qui vous donne un avantage sur un avantage créatif, un avantage stratégique sur vos concurrents quand vous êtes en compétition.
Bah, effectivement, je pense que le fait d'avoir un œil sur les trois continents, donc sur l'Europe, sur l'Asie, sur les États-Unis, ça nous permet de se nourrir à la fois des tendances du marché, des modes de consommation et des tendances créatives et d'échanger en permanence. Donc la manière dont on travaille, c'est véritablement une agence, un groupe, une communauté créative avec effectivement quatre portes d'entrée. Mais la particularité du groupe et de la communauté créative FF, c'est que c'est une agence qui est née à Paris, ouais, mais qui ne s'est jamais pensée comme une agence française. C'est une agence qui, dans son ADN, avait toujours le gène de l'international. Et je dirais même finalement que l'international aujourd'hui, ce mot d'international, pour moi, il est un petit peu désuet, dans le sens où on est dans une économie qui est tellement globalisée, qui est tellement mondiale, qu'aujourd'hui aucune marque ne se pense véritablement nationale, même si elle est implantée au départ nationalement. D'ailleurs, la preuve en est, toutes les startups qui se lancent, elles peuvent se lancer en France, elles sont d'origine française, mais le produit, le service qu'elles imaginent, elles l'imaginent évidemment global. Et FF, c'est la même chose. L'agence FF est née de Fred et Farid, donc deux créatifs qui ont une carrière internationale à Londres, oui, à San Francisco, évidemment à Paris. Et donc on avait ce gène-là. On a évolué, on peut le dire, si on prend un terme biologique, par sissiparité. C'est-à-dire qu'on a pris à chaque fois la culture FF, et on l'a d'abord exporté à Shanghai très rapidement, au bout de 4 ans, et puis avec le succès, maintenant c'est les États-Unis. Donc on est véritablement intrinsèquement, génétiquement international, et c'est ça qui nourrit effectivement notre approche sur toutes les marques, à chaque fois avec comme objectif, et ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et dont on a beaucoup appris en Chine et aux États-Unis, c'est que ce qui compte pour les marques, au-delà d'une bonne idée de com, c'est la croissance. Et nous, notre boulot au sein de la communauté, au sein de FF, c'est de s'attacher aux problématiques business, de réfléchir à quelles sont les idées qui vont permettre aux marques de grandir, aux marques de faire croître leur business.
Mais c'est vrai que c'est intelligent du coup d'être sur place, parce que les attentes du consommateur chinois vis-à-vis des marques sont pas les mêmes que celles du consommateur américain, et j'imagine qu'il faut vraiment s'imprégner aussi de la culture locale, entre guillemets, pour pouvoir justement proposer des produits qui soient intéressants.
Complètement. On voit que certaines marques qu'on accompagne au niveau international, comme notamment Rémy Martin, comme Audemars Piguet, comme Club Med, sont des marques qui ont une proposition qui est, on va dire, très très cohérente sur l'ensemble des marchés, mais malgré tout qui doit être adapté à la fois dans la manière dont il délivre le service et dans la manière dont on communique. Si on prend l'exemple de Club Med, la manière dont les familles voyagent en Chine est complètement différente de la manière dont les Européens voyagent, ou les Américains ou les Sud-Américains. Par exemple, ils voyagent on appelle ça les voyages 3G, c'est toute la famille qui voyage, c'est les grands-parents, les parents, les enfants. Donc forcément, dans la manière dont on appréhende la communication, faut s'adapter. Néanmoins, l'approche, la conception reste une conception qui finalement peut correspondre à une demande globale.
Néanmoins, le fait d'être à la base d'une agence française, est-ce que ça joue à l'étranger, à Shanghai ou à Los Angeles, est-ce que ça joue cette origine française? Est-ce que la French touch en pub a un sens?
Bah, je pense que oui. Je pense que ça joue. Ça joue à Shanghai. Ça a joué à Shanghai nécessairement au départ, parce que malgré tout, la France reste quand même toujours associée, notamment à l'industrie du luxe et à une image d'un pays avec une culture très riche. Donc forcément. Ça attire, mais comme tout, à un moment donné, il faut aussi délivrer, ouais. Il faut aussi être en phase avec la réalité du marché, et c'est ça qui compte. Si l'agence de Shanghai est aussi successful et a accompagné autant de marques dans leur croissance, notamment les grandes marques de tech comme Taobao, Tencent, Alibaba, ouais. C'est pas parce qu'ils sont français, c'est parce qu'ils ont compris le marché chinois. Donc effectivement, il y a un côté séduisant au départ, mais voilà, faut délivrer derrière. Et aux US, c'est la même chose, et même je dirais aux US. Honnêtement, je sais pas. Aux US,
ouais, le fait d'être français,
je pense, ne compte pas autant. Et ce qui compte véritablement, c'est la qualité du boulot, la qualité des idées, et encore une fois, la capacité à aider les marques à se développer.
Merci beaucoup, Lionel Benbassa. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'agence FF Paris.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
C'est avec Valérie Potent cette semaine, Frédéric.
Oui, et alors avec Valérie, on va parler d'un film assez étonnant, parce que c'est un film qui est fait pour la Citroën C3 Aircross, qui a été fait par l'agence Human 7, qui n'est pourtant plus l'agence de Citroën.
Voilà, c'est une bizarrerie parmi d'autres, on va dire, pour ce film, qui est aussi assez long, hein, qui fait 5 minutes. Qui est sans parole. Sans packshot et sans signature. Alors vous me direz en même temps, quand on regarde pendant 5 minutes un film avec une voiture au milieu de nulle part, tôt ou tard on finit par identifier et la marque et le modèle, voir ce qu'elle veut nous dire. Enfin bon, pour en revenir en tout cas à la remarque donc sur l'agence, effectivement, il faut comprendre que c'est un projet qui a été initié il y a assez longtemps, il y a plus d'un an, à l'époque où Human 7 était encore l'agence de Citroën. Le projet était tellement avancé finalement que il était un peu compliqué de tout interrompre après le changement. Donc d'où ce film finalement qui met en scène un homme au volant d'une C3 Aircross en pleine nature et qui va jouer un petit peu les MacGyver, allant jusqu'à désosser son véhicule pour fabriquer un pont de corde et franchir un canyon avec sa voiture.
Mais Valérie, on est d'accord, c'est pas du tout faisable en vrai.
Effectivement, tout n'est pas techniquement réalisable dans ce film, c'est d'ailleurs même là la principale critique qu'on va pouvoir lui adresser, mais même s'il faut quand même savoir que c'est un film qui s'inspire d'un fait réel, on va dire. C'est l'histoire de Émile Leray, qui est un Français qui en 1993 a entrepris la traversée du désert du Maroc à deux chevaux et à mi-parcours, il a cassé sa deux chevaux et il l'a transformée en moto pour finir son parcours. Donc ça, c'est assez fort. Là, en revanche, alors sur la copie 2018, on va dire, on nous met en scène un aventurier qui est un petit peu trop publicitaire, un petit peu trop sûr de lui, un petit peu trop serein, et qui a peut-être aussi qui prend des initiatives un petit peu trop surréalistes pour être crédible.
Donc si on résume, c'est un film très long qui n'est pas crédible. Ça part mal. Quoi.
Ouais. On peut le dire comme ça, effectivement. Maintenant, il faut aussi savoir que ce film, en fait, c'était une demande de Citroën qui voulait de son agence qu'elle produise un contenu différent, sans contraintes particulières, notamment de format ou de ton, et dont le seul objectif était de nourrir la marque. Donc on est quelque part sur un projet qui est plutôt expérimental, sans KPI, c'est-à-dire les indices de performance, sans objectifs commerciaux, ce qui est plutôt cool hein, pour une agence, parce que finalement il n'y a pas trop de pression, et c'est aussi un petit peu difficile pour mesurer évidemment l'efficacité de cette campagne. Alors du coup, les seuls critères de réussite sur lesquels on va quand même pouvoir se baser, c'est c'est le nombre de vues intégrales, bien entendu, ce qu'on appelle le taux de complétion,
ouais.
Le partage et le taux d'engagement qui auront été générés par cette vidéo. Voilà. Enfin, même si là, après une semaine hein, de lancement, on va être honnête, le film n'a pas encore créé un vrai buzz mondial. Moi, je pense que il faut quand même être. Il est peut-être encore un petit peu tôt hein, pour jeter la voiture, le bébé au fond du canyon.
Merci Frédéric Potin, c'était magnifique.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business. Hebdo.com. Le Zoom.
Le Zoom du jour avec Florian Simonet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la marque Schweppes et Daniel Beau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Calicanti et du Brand Content Institute. Alors, nouvelle campagne de pub pour Schweppes, elle est signée BETC. Après Nicole Kidman, Hugh Matterman et Penelope Cruz, c'est une pub sans star de cinéma. Pourquoi ce choix? Ça coûte trop cher ou ça fait plus vendre?
Alors, comme vous l'avez dit, c'est vrai, on a eu une saga publicitaire qui a marqué les esprits, 10 années, plusieurs égéries. C'était important pour nous de revenir et de reprendre la parole en communication avec une nouvelle histoire, une nouvelle plateforme. Et c'était surtout important pour nous de nouveau arriver à surprendre nos fans. Et on l'a fait avec une plateforme, effectivement, qui n'a pas dégéri. Votre question me fait sourire, mais c'est vrai que c'est dans cet ADN de Schweppes, on a une marque qui a toujours cherché à surprendre ses consommateurs, toujours à surprendre ses fans. Je pense que ça ferait aussi sourire Jacob Schweppes qui a créé cette marque, qui lui aussi avait surpris tout son monde à l'époque, en 1783. Ah oui. Il était horloger suisse et il a lancé la première machine à gazéifier l'eau. Donc voilà, on est complètement cohérent avec l'ADN de la marque. On est là aussi pour surprendre les fans. Et cette plateforme, oui, elle n'a pas dégéri, mais elle a plein d'autres atouts. Et comme vous l'avez vu, on a une superbe actrice qui rayonne dans ce clip.
Frédéric.
Qui deviendra peut-être une star. Il y a aussi un petit changement quasiment invisible, ouais. Qui est qu'on passe de « What did you expect » à « What do you expect ». Ouais. J'ai envie de dire.
Alors, effectivement, on pourrait se dire deux lettres changent et ça peut paraître imperceptible, mais pour nous, ces deux lettres, elles changent vraiment tout le sens qu'on donne à cette signature et elles donnent aussi l'avantage de pouvoir capitaliser sur une signature qui a marqué les esprits et qui a une notoriété qui est plus forte que le What Else de Nespresso. Donc ça, nous, on a trouvé ça très malin aussi de l'agence BETC, mais ça a écrit aussi une nouvelle histoire sur la marque Schweppes. On est vraiment là dans une. On avait un What Did You Expect qui venait un peu se jouer des spectateurs et qui venaient clôturer les publicités. Et là, on a un What Do You Expect qui ouvre sur la fin de nos pubs et qui ouvre surtout une nouvelle ligne éditoriale. On a ce What Do You Expect, c'est vraiment une ouverture qu'on donne à tous nos fans, à tous les téléspectateurs vers l'inattendu, parce que Schweppes, c'est plus qu'une simple boisson, c'est avant tout une expérience. Et c'est exactement ça qu'on veut faire vivre et inciter les gens à profiter et à s'ouvrir à l'inattendu.
Alors c'est une campagne qui se rapproche un peu du segment du luxe, ça pourrait faire penser à une pub de parfum. Daniel Beau, quel regard est-ce que vous jetez là-dessus, sur ce positionnement?
Moi je trouve ce spot assez formidable, ne serait-ce que parce que on peut le lire comme un clip, voire comme un court-métrage. Donc on est dans un objet culturel, on est au-delà d'un spot de communication publicitaire promotionnelle. Le précédent était un peu plus à usage, on voyait plus la manière de le consommer, il était plus contextualisé. Là, il y a un aspect effectivement très onirique. Et puis ce long cheminement...
Ce bar infini.
Voilà. Et moi, un autre truc que j'apprécie particulièrement dans ce spot, c'est qu'on peut le regarder un certain nombre de fois, avec toujours autant de plaisir.
Donc on découvre des choses. Mais si vous êtes là aussi, c'est parce que outre le spot, il y a aussi la Villa Schweppes qui réouvre à Cannes. Alors ça, c'est un autre aspect de la communication de la marque. C'est d'ailleurs ça fête ses 10 ans, je crois.
Ça a fêté ses 10 ans l'année dernière. Et là, c'est la 11e édition, ouais. Et on est effectivement très fiers. C'est un vrai atout pour nous. Nous, notre mission de marque qu'on s'assigne tous les jours avec Schweppes, c'est de faire vivre des expériences inattendues et dans des cadres souvent privilégiés à nos fans. Et pour nous, la Villa Schweppes, c'est vraiment ce qui permet d'incarner cette mission et de la rendre palpable, tangible pour les consommateurs et de vraiment la vivre. Donc on a effectivement nos événements depuis plus de 10 ans à Cannes avec la Village Web Cannes, mais on a aussi des événements pour le festival Calvi on the Rocks. Et on a le pendant numérique depuis 5-6 années qui s'appelle villageweb.com et qui permet au plus grand nombre de profiter voilà de l'œil de la marque Schweppes sur différentes thématiques comme la culture, la musique et surtout, et ce qui est très suivi par les fans, c'est les bons plans sortis et restaurants bars qui sont toujours très suivis.
Daniel Beau, qu'est-ce que ça apporte comme ça à une marque de se lancer dans l'événementiel?
Moi, ce que je trouve très réussi dans Villa Schweppes, c'est le fait d'abord de s'inscrire dans la durée. Avec une dimension physique, présence physique avec la villa, et une présence digitale. Après, ce qui est assez fort dans cette opération, c'est aussi le lien subtil avec la marque. C'est-à-dire, oui, ils portent le nom de la marque, mais les couleurs, les codes, le monde de la nuit, qui est un monde typique de la marque. Donc ça c'est un élément de succès vraiment important. Il n'y a pas tant que ça d'opérations de brand content qui peuvent revendiquer 10 ans d'existence.
La durée, en effet, c'est la condition de. Je crois que c'est votre credo. La durée dans le brand content, c'est ce qui fait que ça marche. On n'a pas le droit de faire des petits trucs comme ça.
On peut faire des contenus opportunistes, mais si on veut faire du contenu stratégique, il faut viser le long terme. D'abord, ça prouve que la marque, elle croit dans ce qu'elle fait. Si elle change de contenu tous les 5 minutes, là, vous y croyez. Et j'ajouterais aussi un autre point, c'est que le contenu, il est de haute qualité. Il est exigeant. C'est pas du remplissage où on essaie de produire au jour le jour. Donc vous êtes votre partenaire sur Village Web, c'est
Webedia, ouais. Sur le site, sur le pendant.com. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'on a ils sont 6 ou 7 journalistes qui sont indépendants, ouais. Voilà, qui ont
ouais, c'est un vrai média, hein. C'est
exactement ce qu'il faut, nous on n'a pas un droit de regard sur les articles, et ils ont une certaine objectivité du coup sur les articles qu'ils publient, et c'est ce qui fait aussi la force, c'est qu'on n'est pas sur un site de marque, on est vraiment sur un contenu qualitatif que les gens viennent chercher parce que c'est la bonne info au bon moment pour la bonne cible.
Merci beaucoup Florian Simonet, je rappelle que vous êtes le directeur de la marque Schweppes, c'est Daniel Beau qui dirige le Brand Content Institute.
BFM Business, Hebdo.com, comme un chef.
Paul Rechter, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la communication et des affaires publiques de l'Ordre des Avocats de Paris. Sur quel type de sujet on communique quand on est l'Ordre des Avocats de Paris? Sur des sujets internes à la profession ou vous vous adressez aussi au grand public?
Les deux. En fait, concernant l'opinion publique, on essaye de faire partager l'intérêt pour le droit. Le droit est partout. Le droit est dans le quotidien des Français. Donc il faut le vulgariser. Mm-hmm. Il faut le rendre accessible. Et tout particulièrement aux plus démunis, puisque nous avons des actions très exemplaires de solidarité. Nous avons des bus qui offre des consultations juridiques chaque semaine donc à des SDF, à des migrants. Nous participons à des maraudes. Nous avons une opération annuelle sur le parvis de l'hôtel de ville qui s'appelle Avocat dans la cité. Nous proposons bien évidemment des consultations juridiques gratuites au palais de justice pour les mineurs, pour toute personne qui aujourd'hui n'a pas forcément les moyens ou le réflexe d'aller voir un avocat. Et puis évidemment, bien évidemment, une communication plus professionnelle destinée aux 29 000 avocats qui composent l'ordre des avocats, ouais. Pour les défendre, réguler la profession, parce qu'un ordre, ça a des règles qui sont des règles de déontologie. Il y a 7000 décisions qui sont rendues chaque année, de conflits entre avocats, qui règlent des litiges entre des justiciables, entre des clients et leurs avocats. Donc on a une communication à la fois professionnelle, pour les 29 000 avocats, et à la fois une communication plus grand public.
Alors l'une de vos grandes campagnes dernièrement, c'était celle qui a été faite pendant la campagne présidentielle, où vous avez voulu interpeller les candidats avec une campagne un peu préhistorique, une façon un peu humoristique de les interpeller sur vos préoccupations?
Tout à fait. En fait, c'est une campagne qui est intervenue à l'automne 2016, où il était finalement, l'Ordre des avocats s'était rendu compte que les candidats ne parlaient pas beaucoup de justice, donc il fallait faire sauter ce verrou un peu de l'indifférence. Il y avait des sujets autres, mais la justice n'apparaissait pas encore dans le scope des sujets. Donc on a conçu cette campagne, effectivement, pour montrer que si la justice était dépourvue de moyens, ben elle reculerait pour revenir à l'âge de pierre. Et donc, on a eu l'idée, enfin, quand je dis on, c'est de l'ordre des avocats, a eu l'idée de grimer un certain nombre de candidats en hommes préhistoriques, en leur proposant de se dégrimer au regard des engagements qu'ils devaient prendre sur une plateforme qui a été créée, constitutive à cette campagne. C'était une campagne qui était évidemment un grand succès sur les réseaux sociaux, oui, et une campagne diffusée dans les réseaux inserts, donc 4000 commerçants sur deux vagues en février 2017. Et donc, c'est une campagne qui a eu quand même beaucoup d'impact. Elle a d'ailleurs été récompensée d'un certain nombre de prix.
Et puis, vous avez fait une campagne de sensibilisation auprès des avocats pour les violences faites aux femmes. C'était sur les réseaux sociaux aussi, là.
Tout à fait. Là, c'était vraiment une campagne, ce qu'on se disait tout à l'heure, une campagne destinée aux avocats eux-mêmes et moins à l'opinion publique, même si, effectivement, ce type de campagne peut participer de l'amélioration de l'image de l'avocat. C'est vrai que il y a une phase de révélation. Ouais. On a révélé effectivement qu'il y avait des pratiques qui étaient moralement et professionnellement inacceptables, du sexisme, des comportements absolument inacceptables. Il ne faut bien évidemment pas généraliser, mais déjà nous avons voulu les révéler à travers une campagne dont la tonalité créative était d'être très grave, très dramatique. Et cette campagne, du coup, va déboucher sur un certain nombre d'engagements pris par l'ensemble des cabinets avocats pour l'égalité des parcours, la lutte contre la discrimination, un certain nombre d'initiatives destinées en fait à ce que les collaboratrices et avocates qui travaillent dans les cabinets ne soient plus victimes de ce type d'attitude. Donc là, c'était vraiment une campagne d'interpellation, et c'est assez rare d'ailleurs que des milieux professionnels décident comme ça de faire une forme d'introspection publique pour révéler un certain nombre de sujets. On était évidemment en pleine campagne MeToo et on a pensé que le 8 mars était le moment d'être un peu nos propres lanceurs d'alerte, quelque part.
Merci beaucoup, Paul Rechter. Je rappelle que vous êtes directeur de la communication et des affaires publiques de l'Ordre des avocats de Paris. Merci également à Frédéric Croix, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.